ce soir. Je vais parler sans micro ou
avec un micro. Je sais pas.
D'accord.
Merci.
Oui, ça va peut-être mieux comme ça. Voilà, donc bienvenue encore. Je voudrais d'abord vous dire le regret de Roland Bleté, notre président, qui n'a pas pu être là ce soir. Il est aux États-Unis avec nos amis américains qui travaillent sur le beau dossier de la restauration de la salle des gardes de la Reine. Voilà, donc vous êtes nombreux ce soir à être venus pour une conférence dont le titre ambitieux et prometteur est tout simplement, oserais-je dire, Louis XIV et Versailles, en tout cas c'était le titre. Donc ce couple Versailles-Louis XIV semble indissociable et pourtant il a fait l'objet de nombreuses idées reçues, plus ou moins véridiques. Donc ce n'est certes pas moi qui vais développer ce propos, mais je vais céder très vite la parole à Mathieu Dalina et à Raphaël Masson. Donc Mathieu Dalina, qui est directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles, et Raphaël Masson, qui est conservateur en chef et qui, tous les deux, ont rédigé, publié de nombreux ouvrages sur Versailles. Ensemble, déjà en 2011, ont publié le dictionnaire pour les bulles sur Versailles. Mais là, viennent de commettre un magnifique ouvrage, Versailles, histoire et dictionnaire, que vous allez pouvoir donc acheter ou consulter et dédicacer à la fin de la conférence. Donc Lucien Bailly, dont le dictionnaire Louis XIV avec plus de 600 entrées est paru également en septembre, malheureusement nous a informé qu'il ne pourrait pas être là ce soir du fait de circonstances imprévues, mais vous trouverez également son ouvrage si vous souhaitez le consulter à la fin de la conférence. Et puis quand même, il y a un scoop, enfin c'est peut-être plus un scoop, mais depuis 15 jours, il y a un nouvel ouvrage que vous trouverez aussi à la fin de la conférence, qui est Versailles, l'enquête historique, qui cherche à répondre à une autre question qui ne sera peut-être pas développée ce soir, mais qui est pourquoi Louis XIV a-t-il voulu Versailles, et qui est repris donc, dans la série qui vient de commencer sur Canal+. Donc voilà, donc, ben, je crois que le titre de la conférence maintenant n'est plus Louis XIV et Versailles, mais Versailles et Louis XIV. Donc je laisse la parole à Mathieu et à Raphaël. Merci beaucoup.
Je vais juste prendre le micro. Merci beaucoup. Je ne savais pas pour le bouquin sur Versailles en tant qu'historique. Tout d'abord, pour vous remercier sincèrement d'être là ce soir et vous dire que suite à la au fait qu'on ait appris que Lucien Bailly n'était pas là, on a dû adapter notre conférence et on a un peu repris, et nous prions nous en excuser pour ceux qui étaient au colloque sur l'après Louis XIV, une conférence que nous avions donnée conjointement, Raphaël et moi, au mois de juin pour Versailles et Louis XIV. Et on va essayer de traiter néanmoins le sujet. Excusez-moi. Voilà. Donc finalement, le coup. Je vais peut-être parler. Non, vous m'entendez comme ça ou pas ou... Non. C'est mieux que le micro, mais ça fait que de faire des caisses de résonance. C'est assez. Alors, le couple Versailles-Louis XIV semble indissociable, tant Versailles est identifié à Louis XIV et réciproquement. Si le premier existait bien avant le second, très jeune, Louis XIV a connu une véritable passion pour Versailles et a décidé de l'étendre bien au-delà des limites que son père avait fixées au début du XVIIe siècle. Le souverain a eu une véritable vision pour le site, se faisant architecte et bâtissant le chef-d'œuvre de sa vie qui lui restera éternellement associé. Pourtant, le Versailles de Louis XIV fut loin d'être une réussite architecturale louée par tous ses contemporains et ses successeurs. Le lieu cristallise les fantasmes à travers l'adoration, les critiques d'un public conquis ou non par la folie, entre guillemets, bâtisseuse de son créateur. Au-delà de ce Versailles fantasmé, le couple Versailles-Louis XIV reste, dans l'esprit universel, l'objet de plusieurs idées reçues, plus ou moins véridiques. Et je vais commencer cette partie par le fait qu'on a l'image d'un Versailles fantasmé entre critique et adoration. Dès sa construction, Versailles a suscité d'importantes critiques, qu'elles proviennent du temps de Louis XIII, où, malgré une reconstitution, on blâmait la petitesse de la demeure, trop chétive pour un roi de France, ou même du temps de Louis XIV, où Colbert ne comprenait pas l'engouement royal pour ce château, vous savez, qui était au départ un simple relais de chasse. C'est ainsi que le ministre, dans une célèbre lettre à son roi, datée de 1665 pour Pierre Clément, qui était l'éditeur de la correspondance de Colbert, mais plus vraisemblablement de 1663, donc peut-être une erreur de lecture de la part de Pierre Clément, puisque Pierre de Nolhac l'a plutôt daté de 1663, finalement Colbert osa avertir Louis XIV du peu d'intérêt que représentait Versailles au regard du palais abouti et ancestral qu'était le Louvre. Colbert n'hésitait pas non plus à terminer sa critique par, je cite, « Oh, quelle pitié que le plus grand roi et le plus vertueux de la véritable vertu qui fait les plus grands princes fût mesuré à l'aune de Versailles. Et toutefois, il y a lieu de craindre ce malheur. » Cette ferme critique qui concerne les premiers travaux fut accentuée lors de l'agrandissement du château avec l'enveloppe de Levaux en 1669-1670, période au cours de laquelle Colbert se montra encore très vindicatif à l'encontre des travaux et réitéra sa pensée. Je cite donc au moment de ce nouvel agrandissement qui correspond à ce que vous voyez aujourd'hui dans les grands appartements du roi, c'est-à-dire toute la façade côté nord et côté sud dans les jardins, voilà ce qu'en écrivait Colbert. « Tout ce que l'on projette de faire n'est que rapetisserie qui ne sera jamais bien. Toutefois, les belles maisons doivent être élevées et le plus d'élévation est toujours le mieux. Tout homme qui aura du goût de l'architecture et à présent et à l'avenir trouvera que ce château ressemblera à un petit homme qui aurait de grands bras, une grosse tête, c'est-à-dire un monstre en bâtiment. » Force est de constater que le surintendant a, dans cette occasion, manqué totalement de clairvoyance, puisque plus de 3 siècles et demi après l'œuvre de Louis XIV est toujours là, et on en parle encore aujourd'hui. Ce n'est pourtant pas l'image qui prévalait alors. S'il mit tout en œuvre pour assurer la propagande de son château, en France et à l'étranger, les critiques se firent bien plus vives à sa mort, où les paroles se libérèrent. La plus connue et la plus fallacieuse est sans doute celle du duc de Saint-Simon, qui prêta au souverain des propos au moment de sa mort que celui-là seul releva. Selon le mémorialiste, alors qu'il prodiguait ses derniers conseils au futur Louis XV, Louis XIV aurait dit « Mon enfant, vous allez être un grand roi. Vous allez être un grand roi, pardon. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. Tâchez au contraire d'avoir la paix avec vos voisins. » Saint-Simon est bien le seul à mentionner cet aspect, celui des bâtiments, mais on sait combien il détestait Versailles, qui, selon ses mémoires, avait contribué, je cite, « à tirer pour toujours la cour hors de Paris et à la tenir sans interruption à la campagne. » La mort du souverain entraîna également la publication de nombreux pamphlets intitulés les sigils, vous savez, ces petits couplets qu'on écrivait à la mort des personnes, des sortes d'épitaphes satiriques, et qu'Henri Duranton a largement publié. S'il s'attaque principalement aux personnages, ses courts textes font aussi référence aux réalisations Louis XIViennes, et Versailles est parfois ainsi mentionné. Je cite, c'est de circonstance hein, par rapport à l'exposition, « À Saint-Denis comme à Versailles, il est sans cœur et sans entrailles. Ce monstre qui n'avait qu'un ventre et point d'entrailles mit la famine en France et la peste à Versailles. Ou encore, ce monarque fameux, adoré dans Versailles, fut l'auteur innocent de nos calamités. Il chérissait son peuple, il estimait Noailles. Cependant, il les a tous deux persécutés. Plus grand par sa vertu que par son diadème, il eût été parfait s'il eût vu par lui-même. Sa mort de tout Paris fut l'unique entretien, gémissant des malheurs où la France est réduite. Il est mort, ce monarque, en héros, en chrétien, quoique entre les bras d'un jésuite. » Toutefois, ce n'était pas tant le château qui était ici critiqué, mais plutôt le concept qu'il représentait. Des critiques plus surprenantes proviennent de certains auteurs. On pense en particulier à Voltaire, qui est un relatif admirateur pourtant du siècle de Louis XIV, qui lui aussi s'est fait l'écho de la construction versaillaise, et c'est le moins qu'on en puisse dire, il n'était pas totalement convaincu par l'architecture versaillaise. Voilà ce qu'il en dit. La nation désirait que Louis XIV eût préféré son Louvre et sa capitale au palais de Versailles, que le duc de Créqui appelait un favori sans mérite. Mais la critique se joint à l'admiration quand on voit ce que Louis XIV a fait de superbe et de défectueux pour sa maison de campagne. Le côté bric et broc, sans dessin précis, que l'on prête souvent à la construction progressive du château, est fortement remarqué par les visiteurs. Il en est ainsi de l'agriculteur, au sens noble de l'époque, c'est-à-dire grand exploitant agricole, donc de l'agriculteur britannique Arthur Young, qui a laissé plusieurs témoignages de Versailles lors de ses voyages en France, du moins le titre de son ouvrage, « Les voyages en France pendant les années 1787, 88, 89 et 90 ». Et au-delà de l'incompréhension complète de l'accessibilité de quiconque au souverain, le palais n'eut aucune grâce auprès de l'étranger. Lors de sa visite le 11 septembre 1787, il écrivait ainsi, en parlant de Chambord. « J'avais beaucoup entendu parler de ce château. Il surpassa mon attente. Il donne une haute idée de la grandeur de ce prince. En comparant les temps et les revenus de Louis XIV avec ceux de François Ier, j'aime beaucoup mieux Chambord que Versailles. Les appartements sont grands, nombreux et bien distribués. » Ou encore, beaucoup plus explicite, le 23 septembre suivant, « Je parcours les jardins et me promène le long du Grand Canal, très étonné de l'exagération des écrivains et des voyageurs. Il y a de la magnificence du côté de l'orangerie, mais point de beauté en aucun endroit. Il y a quelques statues assez bonnes pour faire désirer qu'elles soient à couvert. L'étendue et la largeur du canal n'ont rien d'extraordinaire à la vue. Il n'est pas si entretenu que les tentes d'un fermier. La ménagerie est assez bien, mais n'a rien de grand. » Que ceux qui désirent que les édifices et les établissements de Louis XIV continuent à faire l'impression qu'ils ont faite dans les écrits de Voltaire aillent au canal de Languedoc et non pas à Versailles. » Donc, au cours de cette communication, on va faire un certain nombre de citations qui sont issues du livre, puisque le livre, comme on vous l'a dit, est à la fois une histoire, un dictionnaire, mais également une anthologie. Raphaël y reviendra plus précisément après, vraiment sur les anthologies et sur les textes qui vont aussi bien de ces textes d'Arthur Young et qui ont quelques résonances, et je pense qu'on pourra lire, c'est peut-être pas le dernier texte de Los Amual. Voilà. J'en viens à une deuxième partie sur l'idée que Versailles aurait ou non été imité. À la fin du XVIIIe siècle, le château était loin d'emporter tous les suffrages et ressemblait bien plus à une coquille vide que beaucoup de monarchies avaient pourtant cherché à imiter avec plus ou moins de succès. Ainsi, on a pu parler, après l'édification du château de Versailles, d'une diffusion de son modèle à travers l'Europe entière. Pourtant, lors de cette construction sous Louis XIV, l'idée de modèle, ou tout au moins de réussite architecturale, n'était pas, on vient de le souligner, celle qui prévalait. On a trop souvent dit que le château s'était fait sans plan préétabli, ce qui n'était qu'à moitié vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agissait de l'œuvre, on devrait plutôt parler du chef-d'œuvre de Louis XIV, qui devait avoir une idée bien précise de ce qu'il voulait. Que le château ait influencé plusieurs sites royaux, cela ne fait aucun doute. On retrouve ça et là des imitations serviles du palais français, et c'est d'abord dans les jardins qu'il faut rechercher la plus forte comparaison. Le jardin dit à la française, hein, par opposition, c'est une notion qui apparaît par opposition au jardin anglais, ce jardin dit à la française, pensé par André Lenôtre pour Versailles, puis pour Marly, selon des plans réguliers, avec de longues perspectives, le plus souvent agrémenté d'un grand canal, et laissant des dégagements avec des bosquets, est un modèle qui fut repris dans l'Europe entière jusque dans les années 1760. Combien de princes européens ont demandé aux jardiniers français des plans pour aménager leur palais ? Les élèves de Lenôtre, tels Leblon notamment, furent invités pour aménager les jardins de Peterhof, vous voyez ici, ou du palais d'été de Saint-Pétersbourg, ou encore le palais de la Grande Ha, proche de Ségovie. Et pour ce dernier, à partir de 1721, Philippe V, donc le deuxième petit-fils de Louis XIV, était donc un prince bourbon, avait fait venir toute une équipe française, architectes, jardiniers, fontainiers, sculpteurs. Il s'agissait d'un petit palais de retraite que le souverain très catholique fit construire au moment où il pensait abandonner le trône au profit de son fils Louis au début des années 1720 et au moment où il caressait encore l'idée de remonter éventuellement sur le trône de France. Tout cela a été évidemment anéanti après la mort de Louis de Bourbon en 1725, je crois, 24 plutôt. Voilà. De même, de retour en Suède, l'architecte Nicolas Tessin exigera à Drottningholm un jardin s'ordonnant autour d'un axe principal de plusieurs... Il a sauté. Bon. Du coup, c'est pas dans le bon ordre. Le voilà, donc vous avez l'axe de Drottningholm avec un jardin s'ordonnant autour de l'axe principal de plusieurs kilomètres, s'inspirant grandement de tout ce que Lenôtre lui avait présenté en France. L'idée du roi architecte pourrait être reprise pour Frédéric II de Prusse, notamment à Sanssouci, à Potsdam, qui fit élever un parc et un palais selon ses propres plans. Alors ce n'est pas évidemment les plans de Versailles, mais c'est l'idée du roi architecte. Il s'agissait d'une sorte de Trianon où il fit mettre également des figuiers pour imiter la France, bien que les pieds de figuier ne tinssent pas dans ce climat beaucoup plus rude que le climat français. L'influence versaillaise que l'on évoque dans l'architecture des palais européens, je pense au Palazzo Real de Madrid, à Queluche au Portugal, à Schönbrunn à Vienne, à Lunéville ou encore le Palais Royal de Stockholm, est difficile à identifier et bien plus modérée qu'elle ne l'est dans les jardins. Seul un Louis II de Bavière, dans le troisième quart du XIXe siècle, s'identifiant totalement à Louis XIV, certainement pour oublier les soucis de sa politique intérieure, tenta une reconstruction à l'identique du palais du Roi Soleil. Il fit reconstruire le corps central que vous voyez ici sur l'île de Herrenchiemsee avec un tapis vert prolongeant le lac devant le parterre d'eau. On y retrouve non seulement la galerie des glaces, l'enfilade des appartements, un salon de l'œil de bœuf, étonnant, une chambre de Louis XIV au centre et deux escaliers des ambassadeurs. Tout cela, je cite Pierre Verlet, qui est l'auteur de ce magnifique ouvrage monographique sur le château de Versailles, tout cela dans une vilaine couleur, telle que l'a qualifié donc Pierre Verlet. Mais le souverain fou s'était-il vraiment trompé? Son ambassadeur à Paris, qui fut très occupé, fut l'un des premiers à consulter les comptes des bâtiments du roi et les recherches récentes qui ont été notamment évoquées lors d'un colloque, c'était vraiment récente maintenant, c'est plus à l'échelle historienne, c'est récent, il y a une petite dizaine d'années sur les couleurs de l'architecture, prouve que les boiseries extérieures des fenêtres du château de Versailles sur jardin affichaient une couleur ocre jaune pour simuler l'effet d'une dorure. Et donc c'est la couleur qui a été restituée depuis et qui a beaucoup choqué au moment où ça a été restitué sur le château de Versailles. L'influence est le plus souvent bien lointaine et il est bien plus juste de dire que les souverains étrangers adaptaient l'architecture française aux caractères locaux qui faisaient encore la résistance. Ce sont quelques éléments architecturaux qui ont été pris pour modèle. Ainsi retrouve-t-on les longues façades versaillaises à Peterhof, malgré la forme contournée des fenêtres et le crépi jaune typique du baroque de l'Est. De même, le grand escalier du roi, escalier des ambassadeurs, fut imité à plusieurs reprises, comme à Etlo, dans les Pays-Bas, par le français Daniel Marot, pour le compte du grand ennemi de Louis XIV, Guillaume d'Orange, futur roi d'Angleterre, aussi à Herrenchiemsee, comme nous venons de le dire chez le roi de Bavière, ou encore, comme ici, à Oldwen Mansion, dans le Devon, qui est en fait assez méconnue, donc est une propriété anglaise dans le Devon et qui date environ de 1905. Donc vous voyez, c'est une copie du début du XXe siècle. Mais le modèle italien finalement restait véritablement bien présent en Europe et c'est bien plus à l'architecte Rastrelli qu'aux Français que reste attachée l'image de la ville des Tsars. Et comme ici vous voyez la façade du palais d'hiver à Saint-Pétersbourg, qui est représenté ici, même si, après les ultramontains, nos compatriotes artistes étaient ceux qui travaillèrent le plus hors de leurs frontières. En fait, il faut bien plus rechercher l'image de Versailles dans l'idée d'un concept novateur de fonctionnement, plus que dans le domaine strictement architectural. Le château répondait aux exigences de Louis XIV qui avait su façonner un lieu devant exalter sa gloire. Il voulait être maître absolu à la fois de la nature et de ses sujets. Son château participait, au même titre que l'étiquette stricte qu'il avait imposée, à la consolidation de son pouvoir. Sur un terrain quasi vierge, le souverain a pu étendre à l'infini son bâtiment, mais aussi son administration. Il a créé non seulement un modèle architectural européen, mais aussi un modèle politique de fonctionnement. Versailles s'est substitué peu à peu au séjour de la cour galante de Saint-Germain, Paris étant délaissé depuis la Fronde, depuis officiellement 1666, mais Louis XIV avait été marqué par la Fronde, mais ce n'est pas ce qui explique son abandon de Paris. Donc Versailles, pour devenir, au détriment de toutes ses résidences royales, le centre stratégique pendant plus d'un siècle. Le concept était simple mais risqué, construire une ville nouvelle à la campagne. Après l'établissement définitif de la cour à Versailles, en mai 1682, Louis XIV y a installé non seulement son aristocratie, mais aussi son administration centrale. Là, il pouvait paraître comme primus inter pares, au milieu des grands, qui se ruinaient à l'envi pour rester à demeure, mais aussi diriger toute sa politique. Il est aisé de comprendre l'engouement de ce modèle dans le Saint-Empire romain germanique, constitué d'une nébuleuse de principautés concurrentes, ou encore en Russie, on voit le cas avec Peterhof, où le tsar Pierre le Grand voulait donner un caractère occidental à sa capitale. N'oublions pas ses premières visites en Europe de Pierre le Grand en 1697-98, puis sa venue à Versailles en 1717, qui l'avait profondément marqué. Pierre Ier, pour le coup, s'est inspiré complètement de Louis XIV pour le concept de sa ville, qui, comme Versailles, était une ville nouvelle et qu'il voulait, je cite, « comme une fenêtre ouverte sur l'Europe ». Les deux cités se démarquaient de leurs concurrentes, tandis que Versailles et Saint-Pétersbourg devenaient de nouvelles capitales et lieux de résidence de la cour, Paris et Moscou demeuraient les poumons économiques du pays. Allant au-delà de son modèle, la ville de Saint-Pétersbourg est sortie ex nihilo et s'est développée rapidement selon les désirs de son maître. Elle a englouti la vie de nombreux hommes qui travaillaient jour et nuit, comme le faisaient les milliers d'ouvriers à Versailles. Et le marquis de Custine de constater au XIXe siècle, tant de sacrifices étaient de justifier le caprice d'un homme. Ce concept de ville nouvelle pourrait être repris également pour Washington aux États-Unis, où l'architecture s'inspire sensiblement de celle de Versailles. Le plan de Pierre-Charles L'Enfant en 1791, qui n'est pas plan ici L'Enfant, mais qui présente une vue de Washington au début du XXe siècle, il reprend l'idée des grandes avenues rectilignes ainsi que la patte d'oie avec les trois avenues convergentes vers le Capitole. Alors ici, ça a été prolongé à la suite au XXe siècle. Mais vous avez l'idée de plan et de ville nouvelle telle que l'avait conçue Louis XIV pour Versailles. Je te laisse la parole pour prendre la suite.
Merci. Voilà, ça marche. Alors, je vais continuer le propos de Mathieu en évoquant aussi, de façon aussi précise et tenue, l'aventure du couple Versailles-Louis XIV à partir de la mort du roi, c'est-à-dire à partir de 1715, où pendant quelques années on se pose la question de l'avenir de Versailles, parce que Versailles est, dès l'époque de la Régence, lourdement grevé du poids du roi dont on n'arrive pas encore à se débarrasser. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, certaines fort peu nombreuses, il est vrai, mais certaines voix s'élèvent pour demander la destruction de Versailles et de rétablir enfin la cour à Paris. C'est quelque chose qui n'aura pas vraiment de suite, vous en doutez, puisque dès 1722, la cour revient à Paris, mais le poids de Louis XIV sur l'architecture versaillaise est tellement fort que le jeune Louis XV, lorsqu'il retourne à Versailles, prend un certain temps avant de prendre ses marques, si j'ose dire, dans le château, c'est-à-dire que les premiers travaux qu'il va ordonner pour son confort et son habitation sont assez discrets, assez limités, et en aucun cas on ne reviendra sur le grand ordonnancement des façades ni l'ordonnancement de l'appartement, du grand appartement, des grands appartements, le grand appartement du roi, l'ensemble grand appartement du roi, galerie et appartement de la reine, qui resteront quasiment inchangés jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, ce qui ne sera pas sans poser un certain nombre de problèmes, à la fois de circulation, d'usage, mais aussi de décoration. Je renvoie à ce que Pierre Verlet pouvait écrire sur les bénéfices, certains bénéfices de la Révolution, en freinant les idées de Marie-Antoinette sur ses propres appartements qui auraient irrémédiablement fait disparaître le grand décor Louis XIVien. Ça, c'est une autre histoire. Alors, le couple Versailles-Louis XIV, il est ancré, je dirais de manière indélébile, par les grandes tirades de Saint-Simon. Saint-Simon va marquer cette histoire. Qu'est-ce que condamne Saint-Simon dans Versailles? Vous savez que Saint-Simon n'aime pas du tout Versailles. Il condamne d'abord le choix d'un lieu qui, pour lui, il n'est pas le seul, qui pour lui est complètement inapproprié. Alors, vous connaissez les phrases, la phrase célèbre, le plus triste, le plus ingrat de tous les lieux, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout y est sable mouvant ou marécage, sans air, par conséquent, qui peut être bon. Donc ça, c'est vraiment la première chose que Saint-Simon va critiquer. Il va être aussi critique sur le choix du site de Marly, alors là, qui va carrément le traiter de repère de charognes, de serpents et de crapauds, absolument impropre à la construction. Il n'y a que le château de Clagny qui va trouver grâce à ses yeux, mais vraiment du bout du bout des lèvres. Ensuite, il va critiquer, bien sûr, l'enfermement de la cour, avec des phrases assez dures. Ce fut là qu'il commença à attirer le monde par les fêtes et les galanteries, à y faire sentir qu'il voulait être vu souvent. Donc Saint-Simon aussi s'insurge contre ce système-là, et va à chaque fois avoir une vision tellement manichéenne de Versailles qu'il va en perdre un peu sa crédibilité, mais ça, on le verra que plus tard, parce que toute cette acrimonie déployée par le duc mémorialiste, qui termine à chaque fois ses phrases « tel fut le mauvais goût du roi en toute chose », allons-y encore une fois, c'est quelque chose qui va être abondamment repris et qui, de façon intéressante, va être repris par les historiens de la Troisième République, et notamment de la fin du XIXe siècle, par exemple Michelet, qui va vraiment se complaire dans les citations de Saint-Simon, et Michelet, qui va condamner, qui fustige le goût de l'absolutisme de Louis XIV, va évoquer les aberrations de Versailles, je cite ces phrases assez connues, « Versailles, que l'on croyait fini, va croissant, s'augmentant, comme par une végétation naturelle. Il pousse vers Paris des appendices énormes, vers la campagne, l'élégant Trianon, les jardins de Clagny, l'intéressant asile de Saint-Cyr. Enfin, ce qui est le plus grand dans cette grandeur, alors là, on s'attend à la galerie des glaces, quelque chose, maintenant, Michelet va prendre le contre-pied, c'est le Versailles souterrain, les prodigieux réservoirs, l'ensemble des canaux de tuyaux qui les alimentent, le mystérieux labyrinthe de la cité des eaux, qui fait référence à Henri de Rémy. Donc, cette architecture versaillaise, on pense qu'on en a tout dit quand on a cité ces critiques. Ce qui est intéressant de revoir, c'est de voir que dès la mort de Louis XIV, d'autres mémorialistes ou d'autres écrivains vous montrent que l'avis sur Versailles est très partagé. Soit on le loue à outrance, soit on le critique. Mais jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et là il y a la phrase très courte de Chateaubriand, 1787, lors de sa présentation, qu'est-ce qu'il va dire en voyant Versailles? C'est pas tellement la parade, la magnificence de Versailles qui va le frapper. Qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire « Louis XIV était toujours là ». C'est-à-dire qu'on sent encore le poids de ce couple. Alors, de manière à contrepoint, plus irrévérencieuse, on a le jeune Horace Walpole, anglais, qui visite Versailles en 1739 et qui va avoir une sorte de pied de nez sur cette figure du commandeur qui plane sur Versailles. Et il va être sans concession. Il va écrire « La grande façade est un amas de constructions mesquines bâties en briques noires, plaquées partout de méchants vieux bustes, vous reconnaissez la cour de Marne, et garnies de balcons dorés. Les appartements sont tout petits, à l'exception de la grande galerie, qui est majestueuse, mais, alors là, ce « mais » est un peu étonnant, entièrement lambrissée de glace, qui pour Walpole n'était pas le comble de l'élégance. Et cette citation se termine par une raillerie contre l'orgueil royal, ceci à propos du jardin, et il n'y va pas de main morte. Bref, c'est le jardin d'un grand enfant. Tel était bien Louis XIV, qu'on voit ici sous son vrai jour, commandant en personne, sans le secours de ses armées et de ses généraux, et livré tout seul à la poursuite de ses puériles idées de gloire. On voit aussi le vieil antagonisme reprendre. Mais qu'on soit anglais, qu'on soit allemand, alors aussi des nations où on a plutôt lieu de se plaindre de l'expansion ou des volontés expansionnistes françaises, on va avoir le même écho. Le peintre Manliche, au XVIIIe siècle, décrit à son tour Versailles comme un monument d'orgueil plutôt que de goût. En 1787, Sophie von La Roche, dont je vous recommande absolument la lecture des souvenirs qui ont été traduits il y a 2-3 ans, un magnifique voyage en France dans les années 1787, qui traite largement de Versailles, mais aussi d'un voyage qui va l'amener jusqu'à Bordeaux. Sophie von La Roche est plus mesurée, mais sa déception à la vision de Versailles est tangible. Je cite « Cependant, cet édifice royal, bâti il y a 100 ans par Louis XIV avec tant de magnificence, se trouve dans un état bien plus délabré qu'il ne devrait être. Comparé à des bâtiments plus anciens et les différentes parties qui le composent, n'offrent plus au regard l'effet grandiose qu'elles ont dû avoir à l'origine. À mes yeux, le palais des Tuileries présente un aspect bien plus royal que celui de Versailles. » Donc là, c'est intéressant de voir que le goût change également. Mais ce qui perce, et je vous l'ai montré, c'est l'orgueil, la vanité, voire la folie. Et au moment où la révolution en éclate, on a le gouverneur Maurice en 1789 qui dit « c'est un immense monument de la vanité et de la folie de Louis XIV ». Donc au moment où la révolution éclate, où la monarchie française est sur le point de sombrer, Versailles constitue une sorte de résumé des griefs que l'on fait à l'absolutisme et à Louis XIV. Alors, le départ de la cour, le 6 octobre 1789, puis la chute de la monarchie 3 ans plus tard, change la donne pour Versailles bien évidemment. Comme toutes les désormais ex-résidences royales, le statut du château est placé sous le signe de l'incertitude et surtout du changement permanent. Il est vrai que le poids de l'héritage est plutôt encombrant. Qu'est-ce qu'on va faire de Versailles ? Grande question. Ce n'est plus une résidence, ce n'est pas encore un musée. C'est une coquille vide qu'il va falloir meubler avec des idées un peu étonnantes, mais qui vont finalement être patentes jusque pendantes. La question va être pendante jusque en 1837. Mais à certains yeux révolutionnaires, détruire Versailles est une nécessité. C'est détruire le repère de la monarchie absolue, c'est en finir une fois pour toutes avec le fantôme du grand roi et repartir sur d'autres bases. Alors, il y a un texte très intéressant en 1771, déjà, qui est dû à Louis-Sébastien Mercier, qui, dans une sorte de roman d'anticipation, prophétise la ruine de Versailles. Je cite cette phrase. « Un homme, dans son orgueil impatient, a voulu forcer ici la nature. Il a précipité édifice sur édifice. Avide de jouir dans sa volonté capricieuse, il a fatigué ses sujets. Il est venu ensengloutir ici tout l'argent du royaume. Ici a coulé un fleuve de larmes pour composer ces bassins dont il ne reste aucun vestige. Voilà ce qui subsiste de ce colosse qu'un million de mains ont élevé avec tant d'efforts douloureux. Ce palais péché par ses fondements. » Alors, il parle à l'imparfait parce qu'il imagine déjà Versailles détruit. « Il était l'image de la grandeur de celui qui l'a bâti. Les rois, ses successeurs, là aussi, science-fiction, les rois de ses successeurs ont été obligés de fuir de peur d'être écrasés. Puissent ces ruines crier à tous les souverains que ceux qui abusent d'une puissance momentanée ne font que dévoiler leur faiblesse à la génération suivante. » 25 ans plus tard, nous sommes en 1791, Louis-Sébastien Mercier réécrit un tableau du Nouveau Paris, c'est-à-dire qu'il avait décrit le Paris d'Ancien Régime, il va décrire le Nouveau Paris post-révolutionnaire, et il va revenir sur la symbolique de Versailles. Le château de Versailles, resté debout, donna de l'audace à tous les esclaves de cour et alimenta leur perfidie. Et comme les peuples tiennent surtout aux signes et aux signes apparents, si le domicile des rois eût été détruit, ainsi que leur donnait la prévoyance politique, le monarque et sa cour se seraient dit que l'acte insurrectionnel était sérieux et décisif, et ils auraient pris leur parti, et tout le sang qui a coulé serait resté dans les veines des généreux français. Et il va continuer le plaidoyer en achevant. Le château de Versailles était le vêtement d'un grand roi, d'un roi superbe et puissant. Il ne devait plus y avoir de roi puissant et superbe. Il fallait donc, dans ces circonstances uniques, écouter la voix du rêveur pénétré du profond sentiment du danger réel qu'il y avait à laisser subsister un château, centre de toutes les opérations politiques et dont le nom réveillait de près comme de loin des idées entièrement discordantes avec un ordre de choses si nouveau et qui devenait nécessairement impérieuse ou nulle. Malgré cette diatribe, Versailles ne sera pas détruit. Au contraire, il continue plus que jamais à être visité. Il est très étonnant de constater, en effet, que lorsque la monarchie a quitté Versailles, la cour a quitté Versailles, on continue à entretenir Versailles. On a coutume de dire que Versailles n'a jamais été aussi beau qu'en août 1792, lorsqu'il avait été l'objet de 3 ans, entre 1789 et 1792, 3 ans de soins assidus. Et malgré la chute de la monarchie et la disparition de tous les services de la maison royale, Versailles va devenir très très vite et beaucoup plus tôt qu'on ne pense un lieu visité. C'est-à-dire qu'en pleine terreur, des visiteurs, étrangers pour la plupart, anglais beaucoup, viennent visiter le château. Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher ? Alors, c'est qu'en effet, en pleine révolution, alors là on est plus après la terreur, plutôt on va être en 95, 96, 97, à Versailles, l'ombre du grand roi a désormais une rude concurrence, que commence à lui faire la mémoire du couple royal martyr. C'est que Marie-Antoinette et Louis XVI le disputent au créateur de Versailles, en sorte de curiosité touristique. Pour beaucoup, et touristique, je ne le prends pas du tout en sens péjoratif, pour beaucoup, le château est désormais nimbé d'une ambiance crépusculaire et devient le palais où rôdent les fantômes d'un monde englouti, le seul vestige tangible de ces vastes révolus. Cette vision d'un monde qui n'est plus, elle est d'ailleurs dans l'air du temps, et depuis longtemps. En 1791, paraît par exemple un ouvrage qui a eu un retentissement considérable en Europe, ce sont Les Ruines, ou la méditation sur la révolution des empires de Volney. Cet ouvrage va connaître chaque année, ou presque, des rééditions, va être traduit dans toutes les langues européennes, et va être une sorte de grande méditation sur la vanité des choses d'ici-bas, manifestée par les ruines, seul témoignage croyait-on, de civilisation engloutie. Et l'on voit que Versailles n'échappe pas, même si on ne considère quand même pas au point des ruines antiques, Versailles passe un peu à cette aura auprès des voyageurs. Et on va le trouver d'ailleurs dans tous les récits, quasiment tous les récits, qui montrent une visite à Versailles aux alentours de 1800. Silence, tristesse, écho de plus en plus faible, voilà ce qui domine dans les récits des visiteurs. Citons l'exemple du voyageur britannique John Dean Paul en 1802. Je dépasserais mes limites si je voulais donner une description complète du palais. Cette description se trouve détaillée dans maint ouvrage. Qu'il me suffise donc de dire qu'il tombe en ruine de toutes parts et qu'il n'est maintenant qu'un douloureux témoignage de l'inconstance, de la fortune et de la fragilité des grandeurs humaines. En le considérant, nous ne pouvions nous empêcher de nous rappeler les jours affreux où l'infortuné Louis XVI, alors c'est plus Louis XIV, là on passe tout de suite à l'histoire récente, l'infortuné Louis XVI, arraché de ce lieu de plaisir et de magnificence, fut conduit, ainsi que la reine, par une foule furieuse et sans pitié, au milieu des pires insultes qu'auraient pu inventer les sauvages les plus brutaux et les plus féroces, jusqu'à Paris, ou, en d'autres termes, jusqu'à l'échafaud. Vraiment. Versailles sans la cour est comme un corps sans âme, écrit encore le russe Karamzine, qui lui a plus les pieds sur terre, mais qui comprend bien que la vacuité du château entraîne, ce qui est vrai, ce qui a été analysé, peut-être pas suffisamment, un marasme économique terrible pour la ville de Versailles. Il englobe le château et la ville. L'allemand Meyer, en 1793, enchérit. Nulle part, la vicissitude des choses humaines, le néant des grandeurs de ce monde n'est plus apparent et ne fait une impression plus accablante et plus profonde sur l'observateur que dans Versailles désolé. En 1810, encore, là on est carrément pendant les fêtes du mariage de Napoléon avec l'archiduchesse Marie-Louise, on a un jeune et fringant autrichien, Charles de Clary-Aldringen, qui a laissé des mémoires, des souvenirs très intéressants, et écrit à sa mère « Vous n'avez pas idée comme ce château m'a rendu triste. Il y a passé la journée et il en sort vraiment avec un spleen. » C'est le mot de l'époque, assez carabiné. Cependant, l'ombre du roi, on l'a cherché partout. On l'a traqué à la Révolution. Vous savez que les emblèmes royaux, les fleurs de lys, les couronnes, les double L, etc. On a un peu fait la chasse dans toutes les corniches, etc., la chapelle. Mais on oublie parfois des témoignages importants. Et je dis que Louis XIV a su parfois se cacher sous quelques travestissements et demeurer à ce prix à Versailles, comme le raconte encore Meyer. On a enveloppé d'attributs étrangers les statues royales qui ont été épargnées. Celle de Louis XIV, qui est dans la grande salle de l'Orangerie, au lieu de la grande perruque qu'on a enlevée à coups de ciseaux, porte un bonnet de la liberté. Au lieu du bâton de commandement, une pique. Et pour que le public ne se trompe pas, sur cette mascarade en dieu de la guerre, on a inscrit sur son piédestal Mars français, protecteur de la liberté du monde. On a exécuté la même métamorphose sur le bas-relief colossal de Coustou, représentant Louis XIV à cheval dans la grande galerie du château au salon de la guerre. Le génie de la gloire qui descend des nuages, au lieu de l'ancienne couronne de laurier, tient un bonnet de la liberté au-dessus de la tête chauve du roi. Mais l'heure de renouer avec l'histoire de Versailles va bientôt sonner. Tout change en effet avec Louis-Philippe. En 1833, le comte de Montalivet écrit au roi: il était digne de votre majesté de s'occuper du palais de Versailles et de lui donner une destination qui remplaça celle que le changement de nos mœurs et de nos institutions lui a fait perdre depuis plus de 40 ans. On revient à évoquer la magnificence de Louis XIV, l'égide des gloires nationales à venir. Louis-Philippe, en effet, il est né en 1773 à Paris, et jeune prince, il n'avait que 16 ans, en 1789, il a peu connu la cour, suffisamment cependant pour en garder le souvenir. Et en concevant son nouveau musée, le roi Louis-Philippe, même s'il tord le cou à la science historique naissante, a cette manie d'étiqueter, d'épingler et de noyer un peu Versailles dans le flou de ses souvenirs, mais il réussit à en sauvegarder l'essentiel, ce que disait Montalivet, la magnificence de Louis XIV, c'est-à-dire l'idée. N'oublions pas que le roi des Français descend de Louis XIV directement par Mademoiselle de Blois, l'épouse du régent, et il revendique l'héritage. On a évidemment, alors là on l'a vu passer tout à l'heure parce qu'il était mal rangé, voilà, et il faut regarder attentivement ce tableau, vous connaissez tous, hein, les fils, Louis-Philippe et ses fils sortant du château de Versailles le jour de l'inauguration en juin 1837, peint par Horace Vernet, donc il fait l'orgueil de nos collections, et hormis la réussite de ce chef-d'œuvre, il faut regarder les petits détails. Vous voyez le roi, et qui est à côté de lui, à sa gauche pour nous, mais à la droite du roi, on voit caracoler le duc d'Orléans, donc son héritier, le fils Ferdinand. Et vous voyez qu'entre les deux épaules, qu'est-ce qu'on voit assez discrètement, je dois dire, la statue de Petitot, la fameuse statue équestre de Petitot que nous voyons tout à l'heure au début de cet exposé. Et la statue, elle n'est pas là par hasard. Vernet a réussi à subtilement décaler les deux, le roi et le prince héritier, pour permettre de montrer Louis XIV. Mais on va aller plus loin, puisque sous la main du roi, ou quasiment sous le bras du roi, alors là, le détail est peut-être un peu ténu à voir, mais on voit tout un cordon de gardes nationaux, avec leurs pantalons rouges et leur veste bleue, et surtout, on va voir un autre détail assez amusant, sur l'épaulette gauche du duc d'Orléans, on va voir le drapeau tricolore, et si on regarde bien, on se demande même si le Louis XIV ne brandit pas le drapeau tricolore derrière. Donc, est-ce qu'on a une malice de Vernet, ou est-ce que Louis-Philippe a quand même contribué à la composition de ce tableau? Toujours est-il que le programme voulu par Louis-Philippe est ici admirablement résumé. On sait que Louis-Philippe était parfaitement conscient de cet héritage Louis XIVien. Il y a même aussi ce témoignage absolument amusant de la comtesse de Boigne qui parle de la livraison des costumes destinés à la représentation du misanthrope le 10 juin 1837 à Versailles. Et Louis-Philippe veut offrir des costumes absolument neufs pour cette représentation aux comédiens français et leur en faire cadeau à la suite. Et la comtesse de Boigne, qui se trouve au Grand Trianon avec la famille royale le jour même, parle de ces costumes. On les avait apportés le matin à Trianon. La reine me raconta que le roi s'étant diverti à en revêtir un avec l'accompagnement obligé de la grande perruque, il était entré dans la chambre où elle se trouvait avec ses filles. Sa ressemblance avec Louis XIV était si frappante qu'elles avaient pu croire que le portrait peint par Rigaud avait quitté son cadre pour venir leur rendre visite. Ça, c'est ce qui montre. Voilà. Donc, Louis-Philippe lance à travers le château des travaux qui occasionnent d'importantes modifications dans Versailles, vous le savez, dans les ailes surtout, et au rez-de-chaussée. Toutefois, il respecte les grands appartements, la galerie et l'appartement du roi, dont la chambre de parade est restaurée quasiment à l'identique. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens, mais c'est pas grave, on le verra tout à l'heure. La réussite, la résurrection du site de Versailles est une réussite aux yeux des contemporains. En 1842, un Russe, Victor Baladine, comprend, comme la grande majorité des visiteurs, que Versailles est comme le grand sceau du siècle de Louis XIV, et porte au plus haut degré le cachet de la cour. Vous voyez que par rapport aux visions d'Ancien Régime, que j'ai pu vous citer, ou même aux visions qui correspondaient à la fin de la Révolution et début de la période impériale, on voit que Louis XIV, en quelque sorte, se réapproprie, n'a plus besoin de se cacher sous le bonnet phrygien, mais s'est vraiment réapproprié Versailles. Les déploiements des centaines de mètres des galeries historiques, pourtant qui était la volonté première du roi, ne parviennent pas à masquer cette ombre tutélaire du grand roi qui s'étend toujours sur Versailles. Mais cette vision de Versailles liée avec Louis XIV a commencé à fleurir chez les artistes dès la Restauration. Et il suffit de regarder un petit florilège de peinture que je vous ai choisi pour voir que l'image du Versailles royal et surtout du Versailles Louis XIVien, plus important, on n'a pas d'image trop, quelques vagues dessins imaginant un Louis XV à Versailles, ça va être Louis XIV qu'on va montrer. Alors voilà un petit défilé, vous connaissez bien sûr certainement ces peintures. Là, une peinture de Lemonnier conservée au musée des Beaux-Arts de Rouen, marquant alors cette peinture qui. Alors ce sont toutes des peintures rétrospectives, hein, bien évidemment, qui marquent l'inauguration imaginaire de la statue du Milan de Crotone de Puget à l'entrée de l'allée royale. Donc là, on voit le couple royal, ça arrêtant avec les courtisans bien rangés, etc. Donc ça, c'est une vision complètement idyllique de cette inauguration. Alors là, quelque chose de très amusant aussi. Là, nous sommes sous la Restauration, et une femme peintre, Julie Flipeau, a imaginé Madame de Maintenon, qui arbore un costume qui se ferait presque penser à Joséphine, enfin moins le corset, et Louis XIV, assez jeune d'ailleurs, écoutant bien sagement Racine déclamant, et on remarque aussi le buste d'Henri IV qui est bien placé au centre, et qui, nous sommes sous la Révolution, sous la Restauration, n'oublions pas, donc on a vraiment cette vision idyllique. Alors là, autre grand moment, la la vision diplomatique triomphante du Versailles triomphant, avec les ambassadeurs d'Espagne tombant aux pieds du jeune duc d'Anjou, bombardé Philippe V un après-midi de novembre 1700, où on voit que Louis XIV, ouvrant son grand cabinet, fait rentrer toute la cour pour que le roi d'Espagne soit reconnu et acclamé. Alors, on remarquera dans ces peintures que le décor qui est représenté est complètement fantaisiste, c'est-à-dire que ne cherchez pas un détail du Versailles existant. Enfin, on a complètement une vision artistique et qui ne correspond absolument pas à la réalité historique. Alors, autre peinture que je trouve très amusante, alors dont je n'ai pas malheureusement la version en couleur, mais qui est conservée au musée des Beaux-Arts de Rennes, et qui est les adieux, qui représente les adieux, la bénédiction de Louis XIV mourant à son arrière-petit-fils Louis XV, qui a alors un costume mi-troubadour, mi-enfant, on ne voit pas trop. Avec Madame de Maintenon qui lui remonte amoureusement les oreillers. Donc ça, c'est une peinture aussi du 19e siècle. Alors j'ai une très mauvaise mémoire, je vous redonnerai le peintre après, parce que j'aurais pu le noter et je ne l'ai pas fait. Voilà, une autre inauguration Milan-Croton. Alors vous voyez qu'on a changé d'endroit, hein, on est passé du côté sud au côté nord, mais ça c'est Deveria au Louvre qui montre cette inauguration de Milan-Croton. Également, alors là, une très jolie vision, réception du Grand Condé par Daher, œuvre conservée au château de Versailles, qui montre l'escalier des ambassadeurs, l'escalier de la reine, pardon, imaginé, revu. Alors là, on a quand même une certaine fidélité. Alors, une scène tout à fait charmante due à Eugène Lamy qui montre un concert dans la colonnade. Alors, vous voyez qu'on est vraiment dans un romantisme échevelé. Alors, le tableau de Jérôme, bien sûr, que l'on connaît, alors, beaucoup plus spectaculaire finalement que le tableau de l'escalier de la reine. Là, on est dans l'escalier des ambassadeurs, avec toute la cour massée comme à la parade. Et le grand Condé, alors, se frayant un chemin au milieu d'un sol jonché de couronnes de laurier, arrivant devant Louis XIV triomphant. Enfin, c'est une mise en scène, on est à l'opéra, là. Voilà. Donc, et voilà, je vous parlais de la chambre du roi. Là, Louis-Philippe met en œuvre ses souvenirs pour redonner à la chambre du roi son aspect de chambre de parade. C'est-à-dire qu'il va faire installer un lit qui se trouve toujours dans les collections du château, puisqu'il se trouve, vous savez, maintenant dans le salon de Mercure, et on va imaginer une vue tout à fait idyllique de cette chambre au XVIIe. Et là, on est à posteriori, parce qu'on est sous le Second Empire, mais on voit très bien que Louis-Philippe, indépendamment de ses galeries d'histoire, tient à montrer que nous sommes dans le palais du grand roi. Donc, et je finirai cette avant-dernière partie, rassurez-vous, j'en ai plus pour très longtemps, par une citation d'Alexandre Dumas, qui résume en fait cette appropriation de Versailles, non plus comme symbole politique, non plus trop comme cet endroit mélancolique où on va chercher le fantôme de Marie-Antoinette, on ira le chercher, mais un siècle plus tard, en parlant de Versailles comme ce qui est grand, est et sera toujours beau. Et ça, c'est une phrase magnifique de Dumas là-dessus. Alors, en même temps que commence, pardon, je vais revenir, en même temps que se développe le musée de Versailles, naissent aussi les premières études sérieuses sur Versailles, qui commencent tout naturellement avec ce renouveau d'intérêt pour Versailles. La création du musée conduit à la publication de quelques travaux érudits, à la précision encore chancelante, il faut bien le dire. Je pense notamment à Watou, qui s'est improvisé historiographe des résidences royales. On trouve des ouvrages sur tous les grands châteaux royaux et princiers dus à Watou, qui au moins ont le mérite de commencer, de débuter ces historiographies où la fantaisie est de plus en plus, desquelles la fantaisie est de plus en plus bannie, mais on aura quand même des choses assez amusantes. Alors, je ne sais plus où je l'ai trouvé, ça, j'ai toujours recherché cette citation, si vous la retrouvez, n'hésitez pas à me faire signe, mais on retrouve finalement dans un ouvrage du 19e de ce genre une explication assez intéressante de l'aqueduc de Maintenon, où en une nuit, Louis XIV aurait fait construire l'aqueduc de Maintenon pour donner de l'eau au jardin de la marquise. Alors quand on voit la situation du château de Maintenon, on s'interroge un petit peu sur l'idée qui a germé dans la tête de cet écrivain qui a écrit cela. Mais enfin, Watou est le premier, avec aussi une entreprise extraordinaire dont on ne soulignera jamais assez l'importance sous Louis-Philippe. C'est l'entreprise des galeries historiques de Versailles par Charles Gavard, qui va contribuer à, sous forme de souscription, c'est-à-dire publications qui vont en série, qui vont se prolonger jusqu'au sous le Second Empire, à donner au public quasiment l'intégralité de tous les tableaux exposés à Versailles, mais aussi à en faire des relevés topographiques précis. Grâce à une invention assez diabolique, je dois dire, dont j'ai toujours pas vraiment très très bien compris le fonctionnement, mais ça marchait très bien, le diagraphe que Gavard a mis au point pour pouvoir, en sorte, à main levée et en regardant un sujet, arriver à reproduire un intérieur. Vous voyez, ce sont des dessins tout à fait caractéristiques hein, qui sont destinés à la gravure, où le trait compte. Il n'y a plus les ombres portées, c'est vraiment le trait, et c'est tout à fait significatif de cette entreprise de Gavard, vraiment que l'on peut mettre à égalité avec la description de l'Égypte de Denon, hein, qui a été le grand monument éditorial du règne de Napoléon. Alors après ces premiers ouvrages, on va considérer l'ouvrage de Ducieux comme la première histoire critique du château de Versailles, ensuite Caz en 1910, et puis enfin Pierre de Nolhac, bien sûr, et Nolhac 20, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà, donc cette caricature assez amusante au moment de son élection à l'Académie française, où l'on voit un Pierre de Nolhac en train de scruter le Louis XIV descendu de son cadre du salon d'Apollon. Et Pierre de Nolhac, on doit le dire, est toujours pour nous qui travaillons sur Versailles d'une actualité et d'une précision jamais égalée. On reste confondu de la masse de documents qu'il a pu consulter aux archives notamment, parce que nous-mêmes nous allons dans les archives, on se dit, tiens, mais ça, c'est... Ah ben, Nolhac l'a vu. Donc, ça reste une édition, une histoire monumentale qui est absolument incontournable. Bien sûr, d'autres travaux sont venus après. Je pense notamment à la somme que citait Mathieu tout à l'heure de Pierre Verlet, son histoire du château de Versailles reste également l'une des références absolues. Mais plus le temps passe, plus les années passent, on va assister à une éclosion d'études sur Versailles. On va même parler, certains auteurs parlent même de versaillologie, et c'est la diversité de ces études, puisqu'on va aller étudier, là, il n'y a pas très longtemps, une histoire naturelle de Versailles, on va peut-être avoir tendance à oublier le couple Louis XIV et Versailles. Ben, pas du tout, parce qu'on voit toujours que de façon récurrente, que ce soit l'exposition Louis XIV, l'homme et le roi, ou cette année encore, maintenant, l'exposition consacrée à la mort de Louis XIV, on constate vraiment que Louis XIV est toujours chez lui. Les célébrations de 1715 ont marqué aussi une floraison. Alors, sans parler, je dirais, d'opportunités éditoriales et de succès de librairie, je pense aussi qu'il y a eu un certain nombre d'ouvrages qui ont renouvelé l'image de Louis XIV. Je pense notamment au dictionnaire de Lucien Béguy. Je ne parle même pas de la filmographie, même récente, où on montre toujours que Versailles et le couple Versailles-Louis XIV est plus que jamais d'actualité. Mais aussi, et il est un peu long, et ça serait un peu long de s'y pencher, mais de penser qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'osmose qui se fait entre Louis XIV et la nation française. Parce que on peut se dire que, tout en étant en République, on ne voit pas pourquoi on aurait particulièrement la mémoire d'un souverain dont le règne a des côtés éclatants et des côtés sombres aussi, bien sûr, on le sait. Mais le couple Versailles-Louis XIV, ce vecteur de Versailles, finalement, avec l'histoire du château de Versailles, et je ne prendrai qu'un exemple extrêmement récent, puisque c'était lundi dernier, vous voyez que le congrès réunion du Parlement, c'est-à-dire de la représentation nationale, même si ça commence en 1871 avec l'installation de l'Assemblée nationale, puis la durée de siège de ces deux assemblées jusqu'en 1879, le congrès, c'est à Versailles qui se réunit. Versailles reste le haut lieu de la République. On a coutume de dire que la République est chez elle à Versailles. Ce n'est pas une image, c'est vrai, les éléments récents nous l'ont dit. Mais en terminant sur une note aussi extrêmement forte à son époque, je citerai une fois de plus Pierre de Nolhac, qui dans ses mémoires, Souvenirs d'un conservateur, paru juste après son départ de Versailles, Pierre de Nolhac raconte une anecdote assez étonnante et assez bouleversante, je dois dire, lorsqu'il a été conservateur qui était là au moment du 11 novembre 1918. Et il a un paragraphe pour raconter qu'il se trouvait dans le château. Alors c'était le jour même ou quelques jours après, là, je n'ai pas eu le temps de vérifier ce soir, mais il est en train de faire visiter le château et à un groupe, et à un moment, il voit arriver, je crois que c'était dans la Galerie des Glaces, un groupe de soldats, alors un peu éclopés, mais qui se retrouvent à Versailles. Et puis Pierre de Nolhac est bouleversé par cette vision de ces soldats qui reviennent d'années difficiles. Et avec une spontanéité assez étonnante, il termine en disant « Mes amis, chantons la Marseillaise, ça fera plaisir à Louis XIV ». Je trouve que c'est une image magnifique. Voilà, merci beaucoup.
Alors, on vous a pas parlé.
Je sais pas si ça fonctionne. On vous a pas parlé précisément du dictionnaire. Simplement pour vous dire la manière dont on l'a conçu, Raphaël et moi. Vous avez une partie historique vraiment du 17e à nos jours, et par la suite, vraiment la partie dictionnaire dans laquelle vous allez retrouver évidemment toutes les grandes salles, tous les grands concepts, etc. Mais également des choses un peu plus surprenantes, comme le mot fantôme, l'entrée fantôme à Versailles, etc. Et surtout, un gros travail qui a été effectué, là je le dis d'autant plus que c'est Raphaël qui s'en est vraiment chargé, sur l'anthologie, où vous allez évidemment retrouver les grands textes qu'on vous a évoqués, qui sont peut-être parfois un peu moins connus, mais ça va non seulement du XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, mais on a mis vraiment fortement l'accent, non pas sur l'aspect court, ou l'aspect, c'était vraiment l'idée de décrire Versailles par les personnes, et donc ça va aussi bien évidemment des textes de Félibien, de Saint-Simon, mais on va jusqu'à un texte Versailles vu par Los Amoal, et ça m'amuse beaucoup, je vais essayer de vous le lire, parce que c'est en 1624 que...
Faudrait juste dire, c'est tiré d'un roman fantaisiste qui est paru dans les colonnes de Los Amoal, mais je ne résiste pas, avant que Mathieu vous fasse la lecture, vous dire le titre de ce roman qui était « La vie d'Évariste Malfroquet, plombier zingueur de Louis XIV », qui vous donne le ton de cette...
Donc c'est le dernier texte de l'anthologie. C'est en 1624 que Louis XIII fit construire à Versailles un clapier à lapin qu'il transforma plus tard en buanderie, puis en pavillon de chasse. En 1632, ayant sollicité et obtenu le bénéfice de la loi Loucheur, il fit abattre le pavillon de chasse et demanda à Levaux de le remplacer par un château grandiose et monumental. Quand Levaux mourut en 1676, alors vous avez toutes les erreurs historiques évidemment qui vont avec, hein, ce fut Mansart qui poursuivit les travaux et Thomson Houston qui les termina. L'ensemble du monument est d'une réelle majesté, surtout si on le contemple à la loupe et en fermant l'œil gauche. C'est un immeuble moderne avec ascenseur, tout à l'égout, prise de courant, escalier de marbre, vide ordure et boutons de porte en celluloïde. Les jardins tracés à la craie par André Le Nôtre lui-même sont magnifiques. On y remarque surtout la serre au potiron, la porcherie, la mare au crapaud, les puits artésiens, la pelouse de pissenlit, le bassin aux filets d'anchois et la terrasse aux escargots. Il faut citer encore l'orangerie, pittoresquement bâtie au pied gauche d'un gazomètre en macramé auquel elle est reliée par un fil à plomb doré sur tranche d'un aspect aussi féerique que transitoire. Au-delà des grilles des jardins s'étend le parc proprement dit, d'une superficie de 23 litres et demi que sépare en deux un admirable caniveau de plus pur style Renaissance orné de bornes fontaines lumineuses et de quelques poteaux indicateurs en bois précieux qui donnent à cet ensemble unique au monde une allure de four à chaud mérovingien absolument éblouissante.
Voilà. Le reste est sérieux.
Oui.
Voilà.
Bon. On se tient à votre disposition si vous avez des questions.
Vous avez dit que les contemporains avaient critiqué Versailles. Mais en gros, ça a coûté combien pour la nation française ?
Alors, en fait, le château de Versailles, à l'époque de Louis XIV, on a les comptes qui commencent à partir de 1664 de façon continue jusqu'en 1715. Et on a des bribes de comptes à partir de 1661. On a des bribes de comptes à partir de 1661, donc on arrive à reconstituer grosso modo tous les travaux de l'époque Louis XIVienne. On sait qu'il y en avait pour 100 millions de livres répartis sur une cinquantaine d'années, ça fait 2 millions de livres. Pour vous donner une idée de comparaison, le château de Vaux-le-Vicomte, à peu près, c'est 4 millions et demi de livres avec l'achat des terres, 5 millions de livres avec l'achat des terres, l'agrandissement. Dans le château de Versailles, les 100 millions, ça comprend évidemment l'agrandissement du parc, c'est-à-dire les 8 000 hectares, ce qui coûte l'expropriation même si c'est une expropriation, Louis XIV paye les propriétaires qui... Donc 100 millions de livres, ramener donc 2 millions de livres par an, c'est vraiment même pas 1% ou 0,2% du budget de l'État à ce moment-là. Je crois qu'on avait comparé... C'est très difficile de donner une équivalence euro-livre, c'est même impossible, puisque vous avez des choses qui coûtaient beaucoup plus cher à l'époque, et réciproquement, ou moins cher et réciproquement. Mais je crois que grosso modo, c'est le prix qu'a coûté la très grande bibliothèque François Mitterrand, alors qu'elle a été construite en 10 ans. Et je ne pense pas que dans 350 ans... il y avait déjà des problèmes, moi, qui essuyais les plâtres du rez-de-jardin de la bibliothèque en 99, 80, à la rentrée 98, il y avait déjà des inondations. Ça, c'est une chose. Mais, voilà, l'ordre d'idée, ramener au budget de l'État, puisque c'est vraiment une cinquantaine d'années de travaux, c'est pas énorme. Voilà.
Mais votre question est intéressante parce que justement elle était déjà d'actualité sous l'Ancien Régime. On fantasmait aussi sur les sommes englouties par Versailles parce que justement ce monument de la démesure, comme le dit Saint-Simon, et qui frappe aussi, alors après que les contemporains aiment ce monument ou le déteste, on est frappé quand même à Versailles, on n'est pas indifférent. Et effectivement, l'idée des sommes englouties par Versailles est quelque chose d'assez récurrent, donc encore aujourd'hui. Alors, moi j'avais entendu aussi un historien qui s'était penché sur la question, qui disait oui, l'équivalent du prix d'un porte-avions aussi, voilà, en gros. Voilà, c'était Verlet qui avait sorti ça.
Il y a un excellent ouvrage de Frédéric
Thibergien. Vous avez sur la construction de Versailles.
Vous n'avez pas parlé de la vente du mobilier à Versailles à la Révolution. Ça, ça a coûté cher.
Alors,
la vente du mobilier.
Ah oui, voilà. Ça a coûté cher, ça nous coûte cher aujourd'hui.
Oui.
Voilà. Est-ce que vraiment tout a été vendu?
Oui. Oui, oui, sauf les œuvres d'art. Les œuvres d'art. Alors, ce qu'on ne considérait pas comme œuvres d'art, effectivement, c'est là où ma blesse aujourd'hui, c'est le mobilier. En revanche, toutes les collections royales, toutes les statues, les peintures, etc., ça a fait retour. Enfin, c'est revenu à Paris sans aucune difficulté. Les bibliothèques qui faisaient partie déjà des bibliothèques du roi et qu'on considérait comme des choses, des collections pour le public, oui. Mais en revanche, tout ce qui était le mobilier a été vendu. Mais quand je parle du mobilier, c'est du mobilier précieux. Mais. Les grands cabinets que vous connaissez, parce qu'on les a vus au moment de l'exposition de 14, qui se trouvent dans une collection d'un père anglais, ces grands cabinets du Salon de Mars, ont été vendus au 18e, sous l'Ancien Régime. Déjà, il n'y avait pas de tradition de conservation. On vendait tout ce qui était hors de mode, et la Révolution a vidé Versailles, parce que les vacations les plus nombreuses de vente, et ça on a conservé tous les cahiers de vente révolutionnaires, on conservait le mobilier d'usage. Vraiment, mes matelas, les lits, les tables, les chaises, la batterie de cuisine, enfin voilà, c'est... Mais effectivement, le mobilier... Alors, seuls les meubles les plus insignes sont restés, parce que là, je pense notamment au bureau du roi, des choses comme ça, mais après, le mobilier qu'on considérait comme du mobilier d'usage a été vendu.
Y compris les porcelaines.
Pardon ?
Y compris,
oui, la vaisselle a fait partie du lot aussi. Il y a une entrée
révolutionnaire en dictionnaire.
Oui, il y a eu le pillage du garde-meuble, oui, à Paris. Oui. Mais à Versailles n'a pas été pillé. Alors, il y a cette légende qui dit qu'on a vendu le mobilier dans les cours, on jetait le mobilier un peu par la fenêtre, ça c'est tout à fait fantaisiste. En fait, c'était des ventes qui ont eu une légitimité, enfin, un déroulement assez légal, même s'il y a des petites magouilles qui sont passées avant des ententes préalables, mais ça c'était différent. Mais ça s'est passé dans un appartement du château avec des catalogues, des listes de ventes. On vendait le tout venant le matin, l'après-midi. Alors là, on mettait pas de catalogue, hein, parce que c'était vraiment considéré qu'il fallait vider tout ça. Et les meubles, en revanche, bénéficiaient d'une vente un peu plus élevée l'après-midi. Hein. C'était des vacations qui ont été organisées, donc qui ont duré un certain nombre de semaines. Et contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas les Anglais qui sont arrivés pour tout acheter. En fait, c'est surtout des intermédiaires qui sont venus, des intermédiaires parisiens, et qui ont transformé, comme disait je ne sais plus quel auteur, mais Paris en véritable salle de vente ambulante. La moitié de Paris achetait, vendait l'autre. Alors de toute façon, c'était cette époque un peu compliquée. Et après, dans un deuxième temps, les meubles ont quitté le territoire, se sont retrouvés dans les plaques tournantes d'antiquaires, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, et là achetés par des particuliers. Mais il y a eu vraiment un deuxième niveau de vente. Hein.
D'autant que dans ce garde-meuble, il y avait aussi, ne l'oubliez pas, le régent.
Oui, il y avait les diamants de la couronne.
Il y avait surtout les. Ils sont surtout venus chercher les bijoux. C'est surtout les bijoux.
Des choses rocambolesques, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis d'autres choses qui sont un peu miraculées, la pendule de Louis XV aussi, la pendule de Passement, dont l'horloger criblé de dettes a engagé au Mont-de-Piété, que Louis-Philippe a été obligé de dégager pour remonter vraiment sa vie, toute une histoire.
Quand on a une exposition il n'y a pas très longtemps sur les meubles qui ont été construits à Versailles, qui était tout à fait remarquable, on a retrouvé des bureaux,
tout à fait. Mais les grands meubles insignes qui manquent vraiment à Versailles, actuellement identifiés dans le monde, faut pas imaginer aussi que c'est une petite dizaine. Oui. Ça, c'est une susceptible de bouger, d'être vendu,
être en vente. Hein,
vous êtes peut-être au courant qu'il y a eu une vente hier, il y a un bureau de Louis XIV qui a été préempté par le château. Voilà, ça c'est tout officiel. Donc, voilà. Il avait été frappé d'interdiction de sortie et il a été préempté, ainsi qu'une paire d'encoignures de petit Trianon. Voilà, ça c'est les dernières nouvelles des acquisitions. Les vacations, oui, les archives sont conservées aux archives départementales
des Yvelines.
Oui, on peut pister comme ça. Ce qui est plus difficile à pister, ce sont les collections de livres qui sont assez complexes à suivre. Et des fois, on est un peu sur la piste en ce moment, mais c'est un petit peu difficile à comprendre. Alors, il y a des itinéraires tracés, hein, entre Versailles, Paris et la Bibliothèque nationale ou la Bibliothèque municipale. D'autres ont pris des voies un peu plus détournées parce que c'était un véritable quelque chose d'extrêmement complexe à gérer, des dépôts révolutionnaires extrêmement complexes à gérer. Enfin bon, c'est vraiment du détail. Autrement, ce que je voulais rajouter pour l'ouvrage, c'est que dans l'anthologie, on a été confronté, même pour le dictionnaire, on a été confronté à un gros problème. Il a fallu faire un choix, parce que parler de Versailles complètement en intégrant à la fois l'histoire du monument et l'histoire de la cour de France, on s'est aperçu qu'on n'y arriverait pas. Donc il y a des notions sur la vie de cour qu'on a été obligé d'intégrer, mais nous on s'est vraiment attaché à parler du lieu, à parler du monument, donc à parler des lieux, à parler des hommes qui l'ont fait, à parler des différentes notions aussi, mais ce n'est pas vraiment un dictionnaire de la cour que nous ferons peut-être un jour. Et dans l'anthologie, c'est pareil, on n'y trouvera pas forcément les grandes anecdotes de cour que l'on peut trouver dans le mémorialisme, mais bien vraiment l'histoire du bâtiment, à quelques exceptions près. Les récits de la mort de Louis XIV et de Louis XV nous ont paru vraiment importants à mettre, ainsi que de montrer, et ça on a été frappé en réunissant cette anthologie, de la violence avec laquelle, déjà dans les années 1890, la violence avec laquelle étaient considérées par la presse, certaines presses, les restaurations versaillaises. Je vous dis déjà, parce qu'il y a des articles incendiaires, je crois qu'ils traîneraient leurs auteurs aujourd'hui tout droit devant les tribunaux pour des diffamations, et on a voulu en montrer un exemple dans les années 1890 à propos de la restauration du pavillon français. Et il y a un polémiste qui s'appelle Émile Ovelac, qui écrit dans une langue absolument magnifique, mais qui parle des des architectes et de la façon dont on traite Versailles de façon assez étonnante. Et on voit, vous savez tous bien sûr, les polémiques qui peuvent s'élever sur telle ou telle restauration, tel ou tel parti pris de restauration. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le problème n'est absolument pas nouveau et qu'il a bien un bon siècle d'existence, avec des considérations très intéressantes pour l'époque. On a un grand écrivain aussi comme Robert de Montesquieu qui lui prône plutôt de pas trop revenir sur de pas faire des restaurations trop claquantes, mais plutôt juste de bichonner un petit peu pour que le poids du temps reste toujours. Pierre de Nolhac aussi a écrit un magnifique article sur la restauration du hameau. Une fois qu'il a quitté Versailles en 1933, il vient un peu se promener à Trianon, il voit la restauration du hameau, il écrit un article dans le Figaro, qu'on a tenu aussi à citer, parce que c'est un texte assez intéressant aussi, qui reflète ces témoignages de l'époque. Voilà, donc je ne veux pas faire trop de publicité, mais voilà dans quel esprit on a conçu cette anthologie.
On était plusieurs.
Oui,
on est là aussi, tous les deux.
Mais il faut rendre hommage à l'immense
qui s'est prêté tous au les jeu, deux, oui. Parce qu'on a mené ça, effectivement, tous les deux, de façon administrative, collective, en direction d'ouvrage. Néanmoins, on a une vingtaine de collaborateurs avec nous. Que ce soit Jean-Christian Petit-Fils, Alexandre Gadi, Alexandre Maral, tous les conservateurs de l'époque au moment où le projet a été lancé. Donc voilà, donc on est une petite vingtaine.
Ouais. Et on s'aperçoit malheureusement qu'on a oublié certaines.
Il y a plein de choses.
Il y a des manques. Il y a des éditions pour corriger les manques qu'on retrouve inévitablement. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre désarroi de ne pas trouver tel ou tel nom. Ça arrive évidemment. Mais je pense que c'est un dictionnaire qui n'est jamais fini de toute façon. Donc on a le temps.
Merci beaucoup. Si vous souhaitez vous procurer l'ouvrage de Raphaël Masson et Mathieu Davina, donc vous pouvez le trouver à la sortie.
Il paraît que c'est ce week-end.